éternel.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun, François Porcheron.
Bonjour, climat, biodiversité, désertification, déforestation, vous entendez souvent parler de ces thématiques dans vos médias préférés, notamment dans cette émission sur RFI. Aujourd'hui, nous savons qu'il va falloir nous adapter aux limites de notre planète, mais figurez-vous que ça fait plus de 2 siècles que nous nous en préoccupons. C'est ce que nous apprennent les écrits des penseurs et des chercheurs européens, américains ou asiatiques, habilement compilés par notre invité, car la pensée écologique est une tradition née de la modernité, au même titre que le libéralisme, le socialisme ou le féminisme.
C'est pas du vent.
Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne. Vos écrits nombreux et vos réflexions inspirent aujourd'hui de nombreux défenseurs de l'environnement, à commencer par Nicolas Hulot, puisque vous êtes le vice-président de sa fondation. Mais aujourd'hui, nous vous recevons pour parler des textes des autres, finalement, puisque vous venez de publier avec Augustin Franière, l'un de vos élèves, une anthologie de la pensée écologique aux presses universitaires de France. Une anthologie, c'est un recueil de textes que vous avez donc soigneusement sélectionnés parce qu'ils sont pour vous fondateurs de la pensée écologique. Alors, comment est-ce que vous définiriez ce concept de pensée écologique ?
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la pensée écologique, c'est une pensée qui naît, on pourrait dire, au début de la civilisation industrielle, avec les premiers dégâts qu'elle va occasionner. Alors, si on regarde côté européen ou Japon, par exemple, c'est plutôt les dégâts provoqués par les premières usines, les premières fabriques. Avec la soude, etc. Des dégâts assez violents, d'ailleurs, vis-à-vis de l'environnement. Si on regarde du côté des États-Unis, c'est pas la première chose à laquelle on était sensible. Ce qui a vraiment fait naître la pensée écologique, c'est en quelque sorte la hache du Yankee. C'est-à-dire que si on regarde le couvert forestier nord-américain, alors pour les États-Unis, on va prendre s'arrêter aux États-Unis, à la fin du 16e, on a une carte pratiquement entièrement verte, presque. Et puis si on prend la même carte, mais cette fois-ci vers la fin du deuxième tiers du 19e siècle, on n'a plus que des taches vertes par-ci, par-là. Ça a été une déforestation extrêmement rapide et violente. Donc c'est une pensée qui réagit à un monde qui change et qui s'aperçoit que les moteurs de ce monde vont finalement accroître les dégâts.
Donc c'est une réflexion sur la place de l'homme dans la nature.
Ah, complètement. C'est une réflexion sur la place de l'homme dans la nature avec, on pourrait dire, 2 lignes de force différentes. La première caractéristique, c'est une forme de scepticisme qui peut être plus ou moins radical ou plus ou moins modéré vis-à-vis du pouvoir des technologies de répondre aux dégradations qu'on inflige. Or, comme vous le savez, notre société occidentale, vraiment, a une espèce de croyance absolue dans le pouvoir des techniques. Non, la pensée écologique, elle, est plus dubitative. Ça, c'est le premier trait caractéristique. Le second trait caractéristique, c'est une critique de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que, alors évidemment, dans les autres cultures, elles sont pas aussi simplement anthropocentrées, c'est même le moins qu'on puisse dire. Mais la culture européenne historique est très anthropocentrée. Elle va même imaginer qu'il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté la nature avec toutes les autres espèces, alors que dans les autres régions du monde, on imagine que ça s'interpénètre et qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre certains êtres vivants et les hommes.
Alors, pour revenir au côté historique, vous précisez dans votre anthologie que le terme donc d'écologie est né finalement dès le milieu du 19e siècle. Il a été inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, même si l'essayiste et poète américain Henry David Thoreau l'avait peut-être employé lui aussi dès 1852.
Oui, on peut toujours ergoter sur, voilà, les débuts de l'emploi d'un terme. Mais en fait, celui qui en donne vraiment une définition qui va rester la nôtre, c'est effectivement le grand savant Ernst Haeckel, en 1866. Et il définit par écologie la science des relations que les espèces entretiennent entre elles et avec leur milieu. Et c'est toujours le sens du mot écologie, la définition du mot écologie comme science aujourd'hui.
Alors, vous parliez de l'anthropocentrisme. Dans votre anthologie, on apprend que c'est depuis la publication, il y a près d'un demi-siècle, d'un article de Lynn White, un historien nord-américain des sciences et des techniques médiévales sur les racines historiques de notre crise écologique, qu'une controverse perdure finalement sur l'influence du christianisme sur la dégradation de la biosphère. Alors il écrit que c'est la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue, notamment à cause du récit de la Genèse qui décrit l'origine du monde. Alors nous avons demandé à Marc Stinger, qui est évêque de Troyes et président du groupe de travail environnement et écologie de la Conférence des évêques de France, ce qu'il en pense.
On sait que c'est un récit mythique, ce récit de la création du point de vue du genre littéraire, mais ce qui est important, c'est son enseignement, c'est ça, c'est ce qu'il nous dit. Alors la première chose, je dirais, c'est un texte important puisque il est le premier de tous les textes de la Bible, ce texte-là. Au fond, on parle d'écologie dans le premier texte, donc dans le La deuxième, c'est de, si vous voulez, c'est un texte extrêmement bien construit. Il y a les 6 jours. Au terme de chaque jour, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Le dernier jour, quand il crée l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Donc, alors, c'est pas de la suprématie, c'est plutôt pour dire que l'homme a un rôle particulier à jouer, qu'il a été soigné, fait pour cela, pour jouer ce rôle particulier, qui n'est pas un rôle de domination. Si je continue à citer ce texte de la Genèse, il y est dit « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance ». Ça, c'est l'idée. Donc, ce qui veut dire que le rapport que l'homme aura avec le reste de la création, qui est lié avec lui, l'homme doit avoir avec la nature le rapport que Dieu a avec la nature, c'est-à-dire un rapport de bonté, d'amour, de respect, de valorisation, voilà. En fait, ça dit 2 idées en même temps. La première, c'est que entre la nature et l'homme, il doit y avoir une totale solidarité. Ils ont été créés ensemble, non pas ensemble au plan chronologique, mais ils ont été créés dans un même projet, disons plutôt ça comme ça. Donc, il doit y avoir une totale solidarité. Et deuxièmement, l'homme a un rôle particulier à jouer au sein de la nature. Voilà ce que dit ce texte. Il ne dit rien de chronologique.
Oui, mais malheureusement, il n'est pas compris comme cela partout dans le monde. Il y a cette théorie du créationnisme, qui perdure dans le monde. Qui fait des ravages, notamment aux États-Unis, comme le prouve cet extrait du documentaire Jesus Camp. Vous allez entendre cette mère qui a choisi de faire l'école à son fils à domicile.
Bien, clarifions certaines choses. Une opinion répandue chez les politiciens américains vient du constat que les étés aux États-Unis ont été très chauds ces dernières années. Par conséquent, le réchauffement climatique doit être réel. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce raisonnement?
Ça n'a augmenté que d'un demi-degré.
Oui, ce n'est pas vraiment un gros problème, n'est-ce pas?
Non, je ne crois pas que ça nous fera du mal.
Le réchauffement climatique, c'est un énorme problème politique. Si tu regardes le créationnisme, tu te rendras compte que c'est la seule réponse possible à toutes les questions.
Pourquoi nos enfants croient-ils que le réchauffement climatique n'existe pas? Pourquoi? Eh bien, voilà ce qu'ils disent. Violez ce monde, violez cette terre, prenez d'elle tout ce que vous voulez. Parce que vous savez quoi? Nous ne sommes pas ici pour très longtemps. Le Christ vient pour nous emmener loin de la terre. Alors coupez nos arbres, utilisez tout le pétrole, profitez de tout ce que la terre peut nous offrir. Et cela donne envie de les secouer. Et vous voulez leur dire, mais qu'est-ce que vous ne comprenez donc pas dans les fondements du christianisme? Comment en êtes-vous arrivé là?
Alors nous reviendrons, Dominique Bourg, sur les enjeux du climat, mais à travers ce que l'on vient d'entendre, on comprend bien finalement que tout dépend de l'interprétation que l'on fait de ces textes religieux.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein. On est parti d'une très belle interprétation pour finir sur une interprétation plus sommaire. Alors, on peut, et l'exercice a été fait par un très bon philosophe américain, John Byrne Callicott, on peut distinguer 3 grandes interprétations possibles. Alors, sur l'une, on est assez loin, assez près de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que l'homme est une espèce de despote et qui a tous les droits sur le monde. Il y a effectivement des textes qui peuvent, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour affirmer ça. Il y a une deuxième interprétation qui consiste à voir dans l'homme, au contraire, un régent qui doit gérer en bon père de famille la création. Et puis, il y a une troisième interprétation que défendait, par exemple, un naturaliste comme John Muir au 19e siècle, mais qui allait chercher de bonnes assises scripturaires. Eh bien, non, et Saint François est tout à fait, comment dire, représentatif de ça. Finalement, les hommes et les autres créatures sont sur un pied d'égalité par rapport à Dieu. Et nous sommes tous citoyens de la création et citoyens de Dieu. Donc, une sorte d'égalitarisme, si l'on veut. Donc, ces 3 interprétations vont pouvoir disposer d'une assise scripturaire, c'est-à-dire de textes, de morceaux de textes, hein, de la Bible sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et tout texte religieux, par définition, c'est une matrice assez polysémique, et on va en tirer des sens plus ou moins différents. Alors, pour revenir au livre et au texte de Lynn White, hein, qui a effectivement suscité toute cette querelle, lui est pas sur un appui scripturaire. Ce qu'il dit, c'est que à l'époque qu'il décrit, c'est-à-dire l'époque médiévale, il y a une espèce de christianisme populaire qui comporte les représentations selon lesquelles, effectivement, l'homme est une créature complètement à part et qui a vraiment beaucoup de droits sur la création. Alors, ça, je crois que ce christianisme populaire dont il parle, ça a vraiment existé et ça a joué un rôle. Maintenant, le mot anthropocentré est un peu gênant parce que avec le christianisme, on est plutôt confronté à un théocentrisme, en fait.
C'est-à-dire qu'on est centré sur Dieu.
Dieu, c'est Dieu qui a créé, et il a créé aussi l'homme. Alors il peut lui donner un rôle plus ou moins particulier par rapport à ce qu'il a créé.
Et d'ailleurs, le pape François, lors de sa messe inaugurale le 19 mars 2013, devant un parterre de chefs d'État et de millions de téléspectateurs, a annoncé sa volonté de mettre la défense de la création dans ses priorités. Comme quoi, on va quand même dans le bon sens.
Absolument.
Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie du philosophe Dominique Bourg, co-auteur d'une anthologie de la pensée écologique publiée aux presses universitaires de France. Alors Dominique Bourg, vous nous expliquez par exemple que même si la question du rapport de l'homme à la nature remonte au milieu du 19e siècle, pendant plus d'un siècle, la presque totalité des écrits restait centrée sur l'intérêt humain quand même, hein, nos besoins, nos conditions de vie, nos états d'âme. Mais c'est à partir du milieu du 20e siècle que naît une interrogation qui est-ce que les êtres naturels non humains, finalement comme les animaux ou les plantes, pourraient être dignes d'une considération morale en dehors de leur utilité qu'ils représentent pour nous. Alors c'est la naissance de ce que vous appelez l'éthique environnementale.
Voilà, alors on peut dire qu'il y a deux textes qui vont faire naître l'éthique environnementale. Le premier, c'est Almanach d'un comté des sables d'Aldo Leopold, qui est publié à la fin des années 40. Je crois qu'il doit décéder en 47 et c'est publié en 49. Alors c'est la fin, hein, les 20 dernières pages de l'Almanach qui constituent ce qu'on appelle l'éthique de la Terre. Et donc là, l'idée d'Aldo Leopold est la suivante, c'est-à-dire que on se conduit comme des cochons. Et donc, on doit arrêter parce que finalement, on va se mettre en danger nous-mêmes. Et lui, il attend carrément du mécanisme de l'évolution que les hommes changent. En quelque sorte, que la règle d'or s'élargisse si l'on veut bien. Alors, les choses, les dégradations sont allées beaucoup plus vite que ce à quoi il s'attendait. Et il appelle de ses voeux un élargissement du cercle de l'éthique. C'est-à-dire un élargissement du cercle des êtres pour lesquels on doit s'interroger sur la légitimité de ce que l'on fait. C'est une assez belle idée. Alors, on peut l'interpréter d'une façon éco-centrée, comme va le faire John Bird Callicott, c'est-à-dire, en fait, voilà, nous avons des devoirs vis-à-vis des hommes, ce sont eux qui vont passer en premier, et puis on a des devoirs, en quelque sorte, en dégradé vis-à-vis des autres créatures. On peut l'interpréter aussi avec un égalitarisme biocentrique, c'est-à-dire que là, on aurait les mêmes devoirs vis-à-vis d'une paramécie et vis-à-vis d'un enfant dans la misère. Je dois vous dire que pour moi, de mon côté, c'est plutôt une attitude éco-centrée que j'ai fait mienne. Et puis le deuxième texte, alors, il est très très beau aussi, c'est une expérience de pensée, alors là on est plutôt dans les années 60, un petit peu après, de Richard Routlet, et lui imagine la chose suivante, il imagine une situation où vous avez un dernier homme sur Terre. Et ce dernier homme, il a un peu des allures de manager néolibéral quand même, hein. Et donc il est pas très soucieux des choses, et il décide de flinguer tout ce qu'il peut. Et le lecteur est horrifié, alors même qu'il sait qu'il n'y a plus d'homme. Donc ça veut dire qu'indirectement, chacun de nous reconnaît une valeur à la nature en dehors du fait qu'on puisse l'utiliser ou non. Et là, on a, si vous voulez, les deux amorces de cette grande tradition qui va éclore pendant une trentaine d'années, qu'on appelle l'éthique environnementale, et qui est essentiellement composée d'auteurs anglo-saxons ou alors des auteurs nordiques et germaniques, mais assez peu de français.
Alors l'un des mouvements qui incarne, on peut dire aujourd'hui, cette éthique environnementale, c'est le mouvement végétarisme. Tous ceux qui refusent finalement de manger de la viande au nom du bien-être animal. Thomas Le Pelletier est historien, philosophe des sciences et auteur de la Révolution végétarienne aux éditions Accent Aigu. Il nous en explique les fondements.
60 milliards d'animaux terrestres sont abattus chaque année dans les abattoirs à travers le monde. Pour la France, c'est à peu près 1 milliard d'animaux terrestres. Bon, ça se fait forcément dans des conditions abominables. On peut pas abattre 1 milliard d'animaux terrestres en France dans des bonnes conditions. Donc les conditions d'élevage et d'abattage sont la plupart du temps abominables. Bon, on se rend compte de ça, donc on prend conscience qu'il y a un problème. On prend conscience aussi que la nourriture carnée ou de produits d'origine animale n'est pas nécessaire pour être en bonne santé. Et en plus, il y a une pensée éthique qui se développe. Il y a deux siècles, on abolissait l'esclavage. On est contre la discrimination. On donne le droit aux femmes, le même droit aux femmes qu'aux hommes. On est pour la liberté de la vie sexuelle, donc les mêmes droits aux homosexuels. On n'aime plus, nous sommes dans des sociétés qui n'aiment plus la discrimination arbitraire. Donc, pourquoi se permettons-nous d'abattre, de tuer, de torturer ou de faire souffrir des animaux juste pour notre plaisir gustatif, puisque c'est ça. Et toute l'alimentation carnée se fonde forcément sur la souffrance. Or, ce n'est que pour satisfaire un plaisir gustatif, puisque on peut tout à fait s'en passer pour être en bonne santé.
Alors la question, Dominique Bourg, c'est où s'arrête finalement cette éthique environnementale? Parce que par exemple, si on décide de ne plus manger de protéines, on ne mange plus de vaches, de cochons, mais plus non plus d'insectes, par exemple, en Afrique. Or, les insectes ont, on a l'impression en tout cas, moins de conscience que les mammifères. Donc est-ce que la notion de conscience rentre en jeu?
Oui, alors les éthiques animales, on vient de l'entendre, c'est très clair, ce sont des éthiques pathocentrées.
Ça veut dire que
pathos, c'est la souffrance. Pathein, c'est souffrir en grec. Et donc, on voit dans ce qui discrimine un être moral d'un être non moral, la souffrance. Dès qu'un être souffre, on dit qu'il rentre dans la communauté morale. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement...
Donc, on peut manger un insecte, c'est pas grave.
Alors, si on peut prouver qu'un insecte ne souffre pas, dans ce cas-là, oui. On n'est pas dans les éthiques environnementales, hein. Là, on est dans les éthiques animales. C'est pas la question de l'environnement qu'on prend en compte, c'est la question de la souffrance qu'on inflige à d'autres êtres vivants. Alors, c'est un débat assez difficile, mais... C'est de s'interroger là-dessus, effectivement, quand on repense au bilan qui vient d'être donné.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose d'absolument effrayant, et alors ça pose aussi le problème de la masse démographique humaine. Bon, c'est une vraie question éthique, ça, le moins qu'on puisse dire, mais je suis pas sûr qu'on puisse la trancher de façon absolue. En tout cas, les gens qui refusent, pour ces raisons éthiques, de consommer toute forme de viande, c'est tout à fait respectable, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais si on sort de ce débat très concret et qu'on va un peu plus dans votre anthologie, vous écrivez que chaque être vivant, finalement, se développe jusqu'à atteindre un état optimal qu'il tente de maintenir le plus longtemps possible. C'est le cas d'une fleur, par exemple. Donc, ça, rien que pour cela, elle mérite notre respect.
Ah oui, alors, justement, quand on est dans une éthique environnementale et l'expérience de pensée du dernier homme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, alors là, on élargit. On n'est plus du tout, on n'a plus comme critère la souffrance et le ressenti de la souffrance. On dit, voilà, c'est ce que la nature développe, la nature en elle-même a une valeur. Il n'y a pas que les êtres humains qui ont une valeur. Hein, quand on est dans ce système occidental qui se développe à partir de la fin du XVIe siècle, hein, un système dualiste, on a l'homme d'un côté, lui seul est une fin, lui seul vaut pour lui-même, et tout le reste, tous les êtres vivants, ne sont que de simples moyens. L'esprit des Lumières, c'est ça, par exemple. Alors, ça, c'est ce qu'on conteste aujourd'hui très, très clairement. Et le fait de reconnaître une valeur au-delà de la seule espèce humaine, c'est commencer à sortir, par certains côtés, de ce dualisme qui peut être mortifère, par certains côtés.
Oui, puis ça pose des problèmes, là aussi, d'éthique. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des espèces invasives?
Totalement. Alors, ça, si vous voulez... On pourrait remonter à Montaigne. Montaigne disait, on a un devoir d'humanité à l'égard des autres êtres vivants. Alors, avec une approche environnementale, on a deux choses d'une part. On a premièrement une approche en termes de valeur, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est non humain. Et puis on peut avoir aussi, alors rabattre ça dans une éthique conséquentielle, c'est-à-dire on va tenir compte des conséquences de ce qu'on fait, et l'attitude des hommes vis-à-vis des écosystèmes est une attitude stupide, hein, puisque ça consiste à détruire la maison composée aussi d'autres espèces qui nous font vivre. C'est somme toute assez idiot.
Oui, c'est ce qu'on résume par la formule, on scie la branche sur laquelle on est assis.
Absolument. Alors on a ces deux aspects-là. Hein, on pourrait très bien vouloir, si vous voulez, changer nos attitudes vis-à-vis de l'environnement avec une simple éthique conséquentialiste, mais de manière générale, non. La pensée écologique va plus loin et s'interroge sur la valeur de la nature pour elle-même, mais avec tout un arc de possibilités.
Alors, quand on lit les écrits que vous compilez dans votre anthologie et toute la littérature scientifique, il y a un consensus sur le fait que la planète va mal. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à agir? C'est un paradoxe dont je vous propose de parler dans quelques minutes, juste après le flash d'information. À tout de suite. Carrefour de l'Europe.